Vous écoutez, on lit pour vous.
Selon Oxfam, les démocraties sont menacées par la montée fulgurante des milliardaires. Un texte de Pierre Saint-Arnoult de la presse canadienne paru le 18 janvier 2026 dans Le Devoir. Le pouvoir politique des ultra-riches s'accroît à mesure que leur fortune grandit et la menace d'une forme de dictature de ces milliardaires est en train de s'étendre aux démocraties à travers le monde. Un rapport rendu public par Oxfam lance un cri d'alarme mondial à ce sujet. Mais tant le Canada que le Québec doivent aussi se préoccuper de cette tendance, déjà très fortement implantée aux États-Unis. Le rapport, intitulé « Résister au règne des plus riches, défendre la liberté contre le pouvoir des milliardaires », fait état de données qui démontrent que la croissance sans précédent des inégalités ouvre la porte à l'érosion de la démocratie et à la montée de l'autoritarisme. Hausse fulgurante des fortunes. On y apprend d'abord que la fortune des milliardaires à travers le monde a augmenté 3 fois plus vite l'année dernière que la moyenne annuelle des 5 années précédentes, telle que confirmée par le classement mondial en temps réel des milliardaires établi par Forbes. En fait, leur richesse totale a augmenté de 81% depuis 2020, alors que parallèlement, une personne sur 4 ne mange pas à sa faim et près de la moitié de la population mondiale vit dans la pauvreté. En 2025, alors que la majorité fait face à l'inflation, à la précarité et à la hausse du coût de la vie, les milliardaires de leur côté se sont enrichis à des niveaux records, souligne Léa Pelletier-Marcotte, chargée de politique publique chez Oxfam Québec. Ils n'ont jamais été aussi riches et ils ont utilisé cette richesse pour concentrer un pouvoir sans précédent sur nos économies et nos systèmes politiques. Donc, non seulement ils sont plus riches, mais ils sont aussi plus puissants au niveau politique et ils influencent les politiques au détriment de la majorité. 77 milliardaires au Canada. Ils sont aussi plus nombreux. Pour la première fois, on compte plus de 3 000 milliardaires à travers le monde. Au Canada, 12 nouveaux milliardaires se sont ajoutés en 2025, portant le total à 77 personnes détenant une fortune cumulée de 561 milliards de dollars. Les milliardaires canadiens se retrouvent surtout dans les secteurs de la distribution alimentaire et des télécommunications. L'enrichissement sans précédent de 2025 est attribué en grande partie à l'arrivée de Donald Trump, mais ne se limite pas aux ultra-riches américains, écrit-on dans le rapport. Les mesures prises sous la présidence Trump, notamment la promotion de la déréglementation et le démantèlement des accords visant à renforcer l'imposition des entreprises, ont profité aux plus riches à travers le monde. Parmi ces mesures, on note la réduction des impôts des ultra-riches, l'opposition aux efforts mondiaux pour implanter un impôt minimal aux grandes entreprises et le soutien accru des activités liées à l'intelligence artificielle et l'exploitation des matières premières. Comment en vient-on à associer les inégalités grandissantes à l'attaque aux principes démocratiques? Le rapport d'Oxfam n'apprend rien à personne, lorsqu'il souligne que le phénomène de l'influence des plus riches sur la politique n'est pas nouveau. Il est courant dans tous les pays du monde. Investir et influencer le politique. L'analyse constate cependant que les milliardaires ont maintenant 4000 fois plus de chances d'occuper un poste politique que les gens ordinaires. Ils contrôlent aussi plus de la moitié des plus grands médias de la planète et la totalité des réseaux sociaux. Leur influence sur les décideurs et leur présence en politique amènent les gouvernements à satisfaire à leurs demandes au détriment d'une plus grande équité fiscale pour redistribuer leurs richesses vers les services de santé, d'éducation ou la lutte contre les changements climatiques, entre autres. Et quand surgissent des difficultés économiques, les gouvernements où s'exerce l'influence des plus riches tentent à se tourner vers des politiques d'austérité qui aggravent la situation déjà difficile de la majorité de leur population, plutôt que de chercher à redistribuer la richesse. Conséquemment, les citoyens prennent la rue pour manifester et c'est là qu'apparaît la répression. le bouc émissaire, les migrants. Le rapport d'Oxfam ajoute que, plutôt que de blâmer les ultra-riches pour les inégalités flagrantes dont ils sont à l'origine, ces mêmes gouvernements stigmatisent systématiquement les minorités et en font des boucs émissaires. Dans de nombreux pays, les personnes migrantes sont accusées de toute une série de maux frappant la société, notamment la criminalité, l'amenuisement des prestations sociales et l'augmentation du coût de la vie. Là encore, les États-Unis sont un exemple frappant d'une dérive autoritaire répressive qui cible les migrants depuis l'investiture d'un président milliardaire qui a nommé de nombreux autres milliardaires à des postes clés et qui a considérablement réduit les impôts de cette coterie. Léa Pelletier-Marcotte souligne que, c'est ce qui est intéressant dans le rapport de cette année, non seulement on décrit le creusement des inégalités, mais on voit vraiment comment cela impacte les droits de plusieurs personnes à travers le monde. Il y a, dit-elle, un lien direct. Dans les pays où les inégalités sont les plus marquées, il y a jusqu'à 7 fois plus de risques de voir la démocratie s'éroder que dans les pays où les inégalités sont moins prononcées. Les ultra-riches eux-mêmes ne sont pas dupes. Un sondage mené par Patriotic Millionaires auprès de 2300 millionnaires du G20 montre que plus de la moitié d'entre eux estiment que la richesse extrême est une menace à la démocratie et près des 3/4 d'entre eux sont en faveur d'une taxation plus élevée de la richesse. Le Canada n'est pas à l'abri. Certes, les inégalités sont moins prononcées au Canada que dans plusieurs pays ailleurs dans le monde. La directrice générale d'Oxfam Québec, Béatrice Vaugrant, avertit toutefois que le Canada glisse vers une économie d'oligarques. On le voit à travers la concentration inquiétante du pouvoir économique dans des secteurs clés, l'accroissement des fortunes privées influentes, une forte inflation en partie causée par les oligopoles, une érosion du filet social et des mesures fiscales inéquitables. Nous devons prendre des mesures ici avant qu'il ne soit trop tard, et ces mesures passent par une économie qui ne laisse personne de côté. Oxfam Québec invite fortement Ottawa et Québec à imposer efficacement les ultra-riches par des mesures telles qu'un impôt progressif sur la fortune et l'augmentation de la part imposable des gains en capital pour financer et renforcer les services publics essentiels que sont la santé, le logement et l'éducation. Aussi, on suggère d'instaurer un impôt permanent sur les profits excédentaires des grandes entreprises et d'imposer un plafond aux marges de profit des grandes chaînes d'alimentation sur les produits essentiels et aux entreprises polluantes comme le secteur des énergies fossiles. Léa Pelletier-Marcotte fait valoir qu'un impôt sur la fortune des ultra-riches du Canada, un petit impôt, on parle de tout petit, par exemple de 1% sur les fortunes de plus de 10 millions de dollars, de 2% sur celles de plus de 50 millions de dollars et de 3% sur celles de plus de 100 millions de dollars, ça mettrait 25 milliards de dollars par année à la disposition d'un investissement pour le bien commun, pour une meilleure redistribution, pour que les plus riches utilisent des milliers de dollars de patrimoine pour le réinvestir dans les sociétés, dans les lieux, dans les villes où ils sont installés. C'était, selon Oxfam, les démocraties sont menacées par la montée fulgurante des milliardaires, un texte de Pierre Saint-Arnaud de la presse canadienne paru le 18 janvier 2026 dans Le Devoir.
Au sujet du mythe du bon colon français, un texte de Michel Jean, paru le 22 février 2026 dans la presse. L'histoire du Québec, telle qu'on nous la raconte, prend souvent des airs d'épopée héroïque. J'écoutais l'épisode de l'émission Aujourd'hui d'histoire, consacré à la Société des 21 et à la colonisation du Saguenay sur la première chaîne. Un historien y raconte comment d'audacieux investisseurs et cultivateurs canadiens-français ont défié la mainmise de la puissante Hudson Bay Company. Ambitieux, ils partent pour conquérir le Saguenay pour y cultiver les riches terres et exploiter la forêt. L'aventure se passe en 1838, au lendemain de la rébellion des Patriotes. Elle oppose les Français aux Anglais et elle marque la naissance du fabuleux royaume tel que le décrit le site de l'émission. Quand on est né au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on la connaît par cœur. Il manque pourtant un gros bout de l'histoire. Où sont ceux qui vivent déjà au Saguenay? Jamais dans toutes les missions, on ne mentionne les Inuits, trop occupés sans doute à lever leur collet. Cette histoire borgne, qui ne voit qu'un côté de la médaille, me pèse depuis longtemps. J'ai donc lu avec beaucoup de plaisir l'excellent livre de Mathieu Arsenault, « Ne rejette pas nos paroles », tout juste arrivé en librairie et qui s'intéresse à la colonisation de peuplement du Québec au 19e siècle. Le professeur d'histoire de l'Université de Montréal nous offre un ouvrage éclairant, documenté et accessible. Il s'attaque d'abord au mythe voulant que les Canadiens français, les futurs Québécois, se soient montrés plus conciliants avec les Premières Nations que les Anglais. Car la proclamation royale de 1763 avait beau reconnaître leur titre de propriété foncière, aux yeux des habitants canadiens et des nouveaux arrivants, les territoires autochtones en périphérie du domaine seigneurial apparaissent comme des terres incultes appartenant au domaine public. En clair, les colons veulent ces terres et ils font pression sur le gouvernement pour qu'il les ouvre à la colonisation. En entrevue, l'historien insiste. Les colons canadiens-français estiment que le territoire autochtone est à eux. On découvre à travers une recherche fouillée que, contrairement à l'idée reçue, les Inuits ne sont pas restés les bras croisés. Ils ont résisté, optant pour la voie de la diplomatie. Ils ont dénoncé l'envahissement de leurs terres dans de nombreuses lettres et requêtes officielles. Ils ont envoyé des délégations pour les présenter. Ils ont fait entendre leur voix et plaider leur cause avec insistance auprès des autorités. Les Autochtones, peut-on y lire, protestent à plusieurs reprises contre les traitements injustes qu'ils subissent, à mesure que le gouvernement les prive de leurs terres pour les concéder à des colons. Ils s'inquiètent d'autant plus qu'ils sont dépossédés sans leur accord et sans obtenir de compensation. L'ouvrage de Mathieu Arsenault cite de nombreuses sources historiques. Il rend compte avec beaucoup de détails de la résistance des Inuits face à l'usurpation de leurs terres. Conscients que le monde change, ceux-ci sont prêts à des concessions. Ils demandent en échange que des terres leur soient réservées, des droits exclusifs de pêche, de chasse. Au nom de leurs droits ancestraux, ils exigent des indemnités financières et une partie des profits générés par l'exploitation du territoire. Mais, constate l'historien, il ne suffit pas de porter sa voix auprès des autorités de la colonie pour se faire entendre. Encore faut-il être écouté. Les Inuits veulent négocier de nation à nation, mais les Canadiens refusent, explique Mathieu Arsenault. À partir du milieu du 19e siècle, la colonisation de peuplement s'intensifie sur le territoire de ce qui deviendra le Québec. Les Canadiens-Français vont prendre de force les territoires Inuits. Dans le Haut-Canada, qui deviendra l'Ontario, les traités Robinson ont été conclus avec les Anishinabés des lacs supérieurs et Hurons en 1850. C'est pourtant ce que le Québec refusera toujours de faire. Ce sont les tribunaux qui l'ont forcé à signer la Convention de la baie James en 1975. Car le gouvernement canadien, qui lui a transféré en 1898 et en 1912 les terres rachetées à la Compagnie de la baie du Son du Nord et du Grand Nord, a exigé en retour que le Québec reconnaisse les droits des populations autochtones sur ces terres par un traité. Le Québec a accepté, mais n'a jamais respecté son engagement. Take the money and run, comme ils disent à Chicoutimi. Sauf que Cree, Naskapi et Inuit vont invoquer cet argument devant les tribunaux. La Cour supérieure leur donnera raison. Ça forcera la main au Québec et ouvrira la voie à la signature de l'entente de la baie James prévoyant le versement de 234 millions de dollars aux trois nations. Ne rejette pas nos paroles, paraît chez Boréal au moment où les Premières Nations reprochent au projet de constitution du Québec du ministre Simon Jolin Barrette son caractère colonial, l'absence de vraies consultations et son refus de négocier de nation à nation. Le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, de son côté, disait récemment que les Québécois n'ont pas la réputation d'être une nation colonisatrice, contrairement au Canada anglais. Le livre fait donc œuvre utile au débat. La réconciliation passe par la vérité, et cette vérité, si elle n'est pas toujours héroïque, a quand même existé. Il est bon de la connaître. C'était, au sujet du mythe du bon colon français, un texte de Michel Jean, paru le 22 février 2026, dans la presse.
Une maille fragile du tissu social. Un texte de Camille Bérubé, paru le 26 janvier 2026 dans la presse. Camille Bérubé est infirmière praticienne spécialisée. Elle s'interroge sur une déclaration du numéro 2 de la Ville de Montréal, Claude Pinard, qui a dit vouloir retourner aux bases, car ce n'est pas le rôle d'une ville d'avoir une boîte bébé. Ce cadeau accessible en bibliothèque aux nouveaux parents. Un mercredi d'automne, ma fille de 10 mois se dandine sur la petite chaise en regardant les livres tout carton que ma conjointe a choisis pour elle. Les feuilles tombent tranquillement de l'autre côté de la grande fenêtre. Ma fille agite sa nouvelle carte de bibliothèque en essayant de sortir les objets d'une boîte colorée. Nous observons le groupe scolaire dans l'autre section qui s'anime autour d'une activité organisée. Cela fait du bien de voir des gens s'animer. Une femme et sa fille s'approchent de nous. « Vous avez reçu votre boîte. Nous aussi, on l'a reçue l'année passée. » Elle s'assoit sur une des petites chaises et dépose son manteau sur une des tables. Elle raconte. « Je venais d'arriver au pays quand j'ai accouché. Un matin de printemps, j'étais dans mon 3,5 montréalais et je me sentais profondément seul, malgré la grandeur de la ville. J'avais ma fille de presque 2 mois qui dormait sur moi, et je me demandais comment nous allions réussir à nous intégrer. Je me suis rappelé le conseil de l'infirmière qui faisait mon suivi de grossesse. Elle m'avait dit à quelques reprises d'aller chercher la boîte bébé à la bibliothèque après la naissance. J'ai donc décidé d'y aller avec peu d'attente. C'était ma première sortie, autre que l'épicerie et la pharmacie depuis mon accouchement. En entrant, j'ai remarqué un babillard sur lequel étaient affichées plusieurs petites annonces, dont la programmation des spectacles gratuits de la Maison de la Culture.
J'ai poursuivi mon chemin et j'ai rencontré un homme à l'accueil qui m'a aidé à faire la carte de bibliothèque de ma fille et m'a convaincu d'en faire une pour moi. Il a pris son temps et je me suis senti accueilli. Il m'a présenté certaines ressources de la bibliothèque et m'a souhaité la bienvenue. Je suis allé m'asseoir avec ma fille sur un des fauteuils. J'y ai découvert les objets de la boîte. La couverture, je l'utilise encore. Le toutou castor nous a permis de découvrir un nouvel animal. Le petit sac magique pour le bedon m'a épargné plusieurs crises de larmes et m'a permis de gagner quelques heures de sommeil. Pendant que je déballais ma boîte avec une impression d'un Noël printanier, une dame s'est approchée de moi. 3 heures plus tard, je sortais de la bibliothèque. Je n'étais plus seul. J'avais 6 livres, quelques films, une possibilité d'assister à un spectacle de musique gratuit, une future rencontre café avec ma nouvelle amie et un peu plus d'espoir face à mon avenir montréalais. Depuis, je viens ici toutes les semaines. Les ordinateurs présents m'ont permis de mettre à jour mon CV et d'envoyer des demandes d'emploi. Le club de lecture m'a permis d'améliorer mon français et de rencontrer des gens. Une bonne partie de mon réseau a pris racine ici. Bien plus qu'une boîte. La boîte bébé était bien plus qu'une boîte bébé. C'était une façon d'encourager les Montréalais à fréquenter un lieu qui, à mon sens, fait partie du tissu social qu'on veut offrir aux gens qui habitent notre ville. Elle contenait des objets qui réconfortent, comme nouveaux parents, mais aussi des outils, de l'information. La boîte bébé tendait la main aux Montréalais vers un lieu qui permet l'éducation, la sociabilisation, l'ouverture sur la communauté, l'accès à plusieurs ressources et ce, sans stigmatisation, avec une belle neutralité. Je suis une professionnelle de la santé et la boîte bébé était un outil motivateur lors de mes suivis de grossesse pour inciter toutes les familles à s'inscrire à la bibliothèque. La nouvelle parentalité est un passage souvent heureux, mais aussi inquiétant, avec son lot d'adaptation et de stress. Se réfugier dans un lieu neutre, coloré, calme, inspirant, accueillant et diversifié peut être thérapeutique pour plusieurs personnes. D'autant plus pour les personnes en situation de vulnérabilité, les personnes immigrantes. De plus, nous savons la grande pertinence des livres pour le développement des enfants, et ce, dès la première année de vie. Plusieurs n'y ont pas accès, n'ont pas les moyens, ou ne savent tout simplement pas l'impact positif du livre sur l'enfant. Il faut offrir cette chance pour encourager les nouveaux parents à mettre leurs enfants en contact avec cet objet si riche. Il faut encourager l'accès aux livres. Cette boîte est un beau cadeau d'accueil pour les familles montréalaises. Et j'étais fier de dire à mes amis non montréalais que j'avais une boîte, que ma ville soulignait ce passage important de ma vie, celui de devenir parent, et donnait un premier outil crucial à mon enfant, un accès au monde des livres, à l'éducation. J'étais fier que la boîte soit composée de produits québécois, de voir que ma ville encourageait les produits d'ici dans un projet communautaire positif, éducatif et doux. Mais c'est fini. Je me questionne. Est-ce que ça valait vraiment la peine de cesser complètement ce projet? Était-ce une priorité? Aurions-nous pu seulement diminuer le coût de la boîte? Aurions-nous pu aviser les entreprises à l'avance ou discuter avec celles-ci pour trouver des solutions de rechange? Était-ce nécessaire? J'imagine que oui, car il s'agit simplement d'une boîte bébé et tisser les mailles du tissu social montréalais, ouvrir la porte à un lieu qui offre une accessibilité à l'éducation, à l'intégration sociale, communautaire. Ce ne sont pas des bases. Très décevant. C'était Une maille fragile du tissu social, un texte de Camille Bérubé, paru le 26 janvier 2026 dans La Presse.
Peur enfantine, mais pas anodine. Un texte de l'équipe Naître et grandir, paru dans Virage. La plupart des enfants ont des peurs à différents moments de leur vie. C'est normal. Cela fait partie de leur développement. Heureusement, les peurs disparaissent souvent à mesure qu'ils grandissent. Pourquoi les enfants ont-ils peur? Avant l'âge de 5 ou 6 ans, il est difficile pour un tout petit de distinguer son imaginaire de la réalité. La peur survient généralement face à l'inconnu. Par exemple, vivre une nouvelle expérience ou entendre des bruits étranges peut sembler menaçant pour un enfant simplement parce qu'il ne sait pas encore comment réagir dans ces situations. Voici des peurs fréquentes selon l'âge de votre petit enfant. 8 mois, peur des étrangers et de la séparation de son parent. 1 an, peur des bruits, aspirateur, tondeuse, mélangeur et autres. 2 à 4 ans. Peur du noir et des créatures imaginaires, par exemple, monstres, sorcières, fantômes, ainsi que de personnages comme les clowns et le Père Noël. Peur des orages, des insectes et des animaux, comme les chiens et les loups. 5 à 12 ans. Peur associée à une situation particulière. Voleurs et kidnappeurs, médecins et dentistes, peur du vide, de la mort, des accidents et des incendies. Peur des catastrophes naturelles ou de la guerre, après avoir vu des images à la télévision. C'est aussi l'âge des peurs sociales, peur du rejet, peur de parler devant la classe, etc. Des conseils pour aider un enfant qui a peur. Il faut prendre votre petit enfant au sérieux et ne pas vous moquer de lui. Même si elle vous paraît irrationnelle ou sans gravité, la peur qu'il ressent est bien réelle. Cependant, ne réagissez pas trop, car cela renforcerait son angoisse. Mieux vaut le rassurer doucement et l'aider à exprimer ce qu'il ressent. Encouragez-le à mettre des mots sur ses émotions afin qu'il puisse nommer ses peurs. Parlez-lui aussi de vos propres peurs lorsque vous étiez enfant, ainsi que des astuces que vous utilisiez pour les apprivoiser. Il comprendra alors qu'il n'est pas le seul à vivre cela, et qu'il y a plusieurs façons de surmonter ses craintes. C'était « Peur enfantine, mais pas anodine », un texte de l'équipe Naître et grandir, paru dans Virage.